La mort de Wennerström ne fut pas une surprise pour Lisbeth Salander. Elle soupçonna, sur de bonnes bases, que son décès avait un rapport avec le fait qu'il n'avait plus accès à l'argent d'une certaine banque aux îles Caïmans dont il aurait eu besoin pour payer quelques dettes en Colombie. Si quelqu'un s'était donné la peine de demander l'aide de Lisbeth Salander pour trouver Wennerström, elle aurait pu dire presque quotidiennement exactement où il se trouvait. Elle avait suivi via Internet sa fuite désespérée à travers une douzaine de pays et elle avait noté une panique croissante dans son courrier électronique dès qu'il branchait son ordinateur portable quelque part. Mais même Michael Blomqvist n'aurait pas cru l'ex-milliardaire fuyard, crétin au point de traîner avec lui le même ordinateur qui avait été si minutieusement piraté. Après 6 mois, Lisbeth s'était lassée de suivre Wennerström. La question à laquelle il fallait répondre maintenant était de savoir jusqu'où allait son propre engagement. Wennerström était sans le moindre doute un fumier de grande envergure, mais il n'était pas son ennemi personnel et elle n'avait pas d'intérêt propre à intervenir contre lui. Elle pourrait tuyauter Michael Blomqvist, mais il se contenterait probablement de publier une bonne histoire. Elle pourrait tuyauter la police, mais la probabilité que Wennerström soit prévenu et qu'il ait le temps de disparaître était relativement importante. De plus, par principe, elle ne parlait pas avec la police. Mais il restait d'autres dettes à régler. Elle pensait à la serveuse de 22 ans, dont on avait maintenu la tête sous l'eau. 4 jours avant qu'on retrouve Wennerström mort, elle s'était décidée. Elle avait allumé son téléphone portable et appelé un avocat à Miami, Floride, qui semblait être une des personnes que Wennerström cherchait le plus à éviter. Elle avait parlé avec une secrétaire et lui avait demandé de transmettre un message sibyllin. Un nom, Wennerström, et une adresse à Marbella, c'était tout. Elle coupa les infos à la télé à la moitié du reportage sur le décès de Wennerström. Elle brancha la cafetière et se prépara une tartine de pâté de foie au cornichon. Erika Berger et Christer Malm s'occupaient des préparatifs habituels pour Noël, pendant que Michael, assis dans le fauteuil d'Erika, buvait du vin chaud en les regardant. Tous les collaborateurs et beaucoup des freelances indépendants réguliers reçurent un cadeau pour Noël. Cette année, une sacoche avec le logo de Millennium. Après avoir préparé les paquets, ils se mirent à la corvée d'écrire plus de 200 cartes de Noël pour l'imprimerie, des photographes et des collègues et d'y coller des timbres. Michael essaya presque jusqu'au bout de résister à la tentation, mais pour finir, il se laissa aller. Il prit une toute dernière carte de Noël et écrivit « Joyeux Noël et bonne année, merci pour ton impressionnante contribution au cours de cette année ». Il signa de son nom et adressa la carte à Jane Dalman, au bon soin de la rédaction de Finance Magazinette Monopole. Quand Michael rentra chez lui le soir, un avis de passage du facteur l'attendait dans sa boîte. Il alla chercher son paquet le lendemain matin et l'ouvrit une fois arrivé à la rédaction. Le paquet contenait un stick anti-moustique et une demi-bouteille de Remersholm Aquavit. Michael ouvrit la carte et lut le texte. « Si tu n'as rien d'autre à faire, sache que je serai ancré à Arolma pour la Saint-Jean. » C'était signé de son ancien copain de classe, Robert Lindbergh. Traditionnellement, Millennium fermait la rédaction la semaine avant Noël et pendant les fêtes de fin d'année. Cette année, les choses n'étaient pas aussi évidentes. La pression sur la petite rédaction avait été colossale et des journalistes de tous les coins de la planète continuaient à appeler quotidiennement. La veille du réveillon de Noël, Michael Blomqvist lut, presque par hasard, un article dans le Financial Times qui résumait la situation actuelle à la Commission bancaire et financière internationale qui avait été constituée en toute hâte pour démêler l'empire de Wennerström. L'article indiquait que la Commission travaillait selon l'hypothèse que Wennerström avait probablement reçu au dernier moment une sorte d'avertissement qu'il allait être démasqué. Ses comptes à la Bank of Cronenfeld aux îles Caïmans avec 260 millions de dollars américains avait en effet été vidé la veille de la parution de Millennium. Cet argent s'était trouvé sur des comptes dont seul Wennerström en personne pouvait disposer. Il n'avait même pas besoin de se présenter à la banque, il lui suffisait d'indiquer une série de codes de clearing pour pouvoir transférer l'argent vers n'importe quelle autre banque, n'importe où dans le monde. L'argent avait été transféré en Suisse où une collaboratrice avait converti la somme en obligation nominative anonyme. Tous les codes de clearing avaient été en ordre. Europol avait publié un avis de recherche international de la femme inconnue qui avait utilisé un passeport anglais volé au nom de Veronica Scholz et qui aurait mené grand train dans l'un des hôtels les plus coûteux de Zurich. Une photo relativement nette, provenant d'une caméra de surveillance, montrait une femme de petite taille, avec une coupe au carré, une large bouche, une poitrine généreuse, des vêtements de marque exclusifs et des bijoux en or. Michael Blomqvist examinait la photo. d'abord d'un œil rapide, puis avec une expression de plus en plus sceptique. Au bout de quelques secondes, il sortit une loupe d'un tiroir de son bureau et essaya de distinguer les détails du visage sur le cliché du journal. Finalement, il posa le journal et resta bouche bée pendant plusieurs minutes. Ensuite, il éclata d'un rire si hystérique que Christer Malm pointa la tête et demanda ce qui se passait. Michael ne put qu'agiter la main en réponse. Dans la matinée du réveillon, Michael se rendit à Ersta voir son ex-femme et sa fille Pernilla et échanger des cadeaux. Pernilla reçut l'ordinateur qui était en haut de sa liste et que Michael et Monica avaient acheté ensemble. Michael reçut une cravate de la part de Monica et un polar d'Eck Edwardson de la part de sa fille. Contrairement au Noël précédent, ils étaient tout excités par l'attention médiatique autour de Millennium. Ils déjeunèrent ensemble. Michael regardait Pernilla du coin de l'œil. Il n'avait pas vu sa fille depuis qu'elle était venue le voir à Edestad. Il se rendit brusquement compte que jamais il n'avait discuté avec Monica de son engouement pour cette secte traditionnaliste à Skelleftea. Et il ne pouvait pas non plus raconter que c'était les connaissances bibliques de sa fille qui l'avaient finalement mis sur la bonne piste en ce qui concernait la disparition de Harriet Wanger. Il n'avait pas parlé avec sa fille depuis, et il ressentit une pointe de mauvaise conscience. Il n'était pas un bon papa. Il fit une bise à sa fille après le déjeuner et alla retrouver Lisbeth Salander à Slussen pour rejoindre Sandam ensemble. Ils ne s'étaient pas beaucoup vus depuis que la bombe de Millennium avait explosé. Ils arrivèrent tard le soir du réveillon et ils y restèrent jusqu'après Noël. Comme à l'accoutumée, Michael était une compagnie distrayante. Mais Lisbeth Salander avait la désagréable sensation qu'il la regardait d'un œil particulièrement étrange quand elle rendit l'argent qu'il lui avait prêté sous forme d'un chèque de 120 000 couronnes. Il se garda cependant de dire quoi que ce soit. Ils firent une promenade jusqu'à Troville et retour, ce que Lisbeth considéra comme un gaspillage de temps, partagèrent leur repas de Noël à l'auberge, puis se retirèrent dans la cabane de Michael, où ils allumèrent un feu dans le poêle, mirent un disque d'Elvis et s'adonnèrent à une partie de jambes en l'air sans prétention. Par moments, quand Lisbeth refaisait surface, elle essayait de saisir ce qu'elle ressentait. Elle n'avait aucun problème avec Michael en tant qu'amant. Il s'amusait au lit, c'était une entente physique très correcte, et il ne cherchait jamais à l'adresser. Son problème était qu'elle n'arrivait pas à interpréter ses sentiments pour Michael. Depuis sa puberté, jamais elle n'avait baissé la garde ainsi et laissé un autre individu arriver aussi près d'elle qu'elle ne l'avait permis à Michael Blomqvist. Il avait une capacité carrément éprouvante à franchir ses mécanismes de défense et à l'amener plus d'une fois à parler d'affaires privées et de sentiments privés. Même si elle avait le bon sens d'ignorer la plupart de ses questions, elle parlait d'elle-même comme elle ne pouvait pas imaginer de le faire, même menacée de mort avec quelqu'un d'autre. Cela l'inquiétait et la faisait se sentir nue et livrée à son bon vouloir. En même temps, quand elle le regardait endormi et qu'elle écoutait ses ronflements, elle sentait que jamais auparavant dans sa vie, elle n'avait eu une telle confiance inconditionnelle en quelqu'un. Elle savait avec une certitude absolue que Michael Blomqvist n'allait jamais tirer profit de sa connaissance d'elle pour la blesser. Ce n'était pas dans sa nature. La seule chose dont il ne parlait pas était leur relation. Elle n'osait pas le faire et Michael n'abordait jamais le sujet. Au matin, le lendemain de Noël, tout devint pour elle d'une clarté effroyable. Elle ignorait comment cela s'était passé et elle ne savait pas non plus ce qu'elle allait en faire. Elle était amoureuse pour la première fois de ses 25 ans. Elle s'en fichait qu'il ait presque le double de son âge. Tout comme du fait qu'il était l'une des personnes dont on parlait en Suède en ce moment et qui apparaissait même sur la couverture de Newsweek. Tout cela n'était que du blabla. Mais Michael Blomqvist n'était ni un fantasme érotique, ni un songe éveillé. Cela aurait une fin et ça ne pourrait pas fonctionner. À quoi lui servirait-elle ? Elle était à la rigueur une façon de passer le temps, en attendant quelqu'un dont la vie n'était pas un foutu nid de rat. Elle comprit tout à coup que l'amour était l'instant où le cœur est sur le point d'éclater. Quand Michael se réveilla, tard dans la matinée, elle avait préparé le café et mis la table du petit déjeuner. Il l'accompagna à table et se rendit vite compte que quelque chose dans son attitude avait changé. Elle était un peu plus réservée. Quand il lui demanda si quelque chose n'allait pas, elle prit l'air neutre de celle qui ne comprend pas. Après Noël, Michael Blomqvist prit le train pour Edestad. Il portait des vêtements chauds et de vraies chaussures d'hiver quand Dirk Fraude vint le chercher à la gare et le félicita à voix basse de ses succès journalistiques. Il n'était pas retourné à Edestad depuis le mois d'août et ça faisait presque un an jour pour jour qu'il y était venu la première fois. Ils se serrèrent la main et se parlèrent poliment, Mais entre eux, il y avait aussi beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites, et Michael se sentait mal à l'aise. Tout avait été préparé, et la transaction chez Dirk Fraud ne prit que quelques minutes. Fraud avait offert de placer l'argent sur un compte confortable à l'étranger, mais Michael avait insisté pour qu'il soit versé comme des honoraires ordinaires. « Je n'ai pas les moyens de m'offrir d'autres formes de paiement », avait-il répondu sèchement comme Fraud s'étonnait. La visite n'était pas uniquement de nature économique. Michael avait toujours des vêtements, des livres et quelques affaires personnelles dans la maison des invités, depuis que lui et Lisbeth avaient précipitamment quitté Edeby. Henrik Wanger était toujours fragile depuis son infarctus, mais il avait quitté la maison de santé de Hedestad et était de retour chez lui. Il était perpétuellement accompagné d'une infirmière particulière qui refusait qu'il fasse de longues promenades, emprunte des escaliers et discute de ce qui pourrait trop l'émouvoir. Ces jours-ci, justement, il avait attrapé un petit rhume et avait illico été mis au lit. « Et en plus, elle coûte cher », se plaignit Henrik Wanger. Michael Blomqvist n'était pas spécialement choqué et estima que le vieil homme avait les moyens de payer, eu égard au nombre de couronnes du contribuable qu'il avait détourné dans sa vie. Henrik Wanger le regarda, boudeur, avant de se mettre à rire. « Merde alors, il valait bien tout cet argent, je le savais. Franchement, je ne pensais pas que j'allais venir à bout de l'énigme. Je n'ai pas l'intention de te remercier, » dit Henrik Wanger. « Je ne m'y étais pas attendu, » répondit Michael. « Tu as été grassement payé. Je ne me plains pas. Tu as fait un boulot pour moi et le salaire devrait suffire comme remerciement. Je suis seulement venu pour dire que je considère le boulot comme terminé. » Henrik Wanger fit la moue. « Tu n'as pas encore terminé le boulot, » dit-il. « Je le sais. Tu n'as pas écrit la chronique de la famille Wanger sur laquelle on s'était mis d'accord. Je sais. Je ne vais pas l'écrire. » Ils méditèrent cette rupture de contrat en silence. Ensuite, Michael continua. « Je ne peux pas écrire cette histoire-là. Je ne peux pas parler de la famille Wanger et laisser sciemment de côté les événements essentiels des dernières décennies, Harriet et son père et son frère et les meurtres. Comment pourrais-je écrire un chapitre sur la période de Martin comme PDG et faire comme si je ne savais pas ce qu'il y avait dans sa cave? Et je ne peux pas non plus écrire l'histoire sans détruire une nouvelle fois la vie de Harriet. « Je comprends ton dilemme, mais je te suis reconnaissant du choix que tu as fait. Donc, je laisse tomber l'histoire. » Henrik Wanger hocha la tête. « Félicitations, » dit Michael. « Tu as réussi à me corrompre. Je vais détruire toutes mes notes et les enregistrements des conversations avec toi. » « Je ne trouve pas que tu aies été corrompu, » dit Henrik Wanger. « C'est l'impression que j'ai, alors c'est probablement le cas. Tu avais à choisir entre ton boulot de journaliste et ton boulot d'être humain. Je suis assez certain que je n'aurais pas pu acheter ton silence, que tu aurais choisi le rôle de journaliste et nous aurais cloués au pilori si Harriet avait trempé dans l'affaire ou si tu m'avais considéré comme un fumier. » Michael ne dit rien. Henrik le regardait. « Nous avons mis Cecilia au courant de tout. Dirk Fraud et moi aurons bientôt disparu, et Harriet va avoir besoin de soutien de quelques membres de la famille. Cecilia va entrer de façon active au CA. Ce seront elle et Harriet qui dirigeront le groupe à l'avenir. » « Comment a-t-elle pris ça ?»« Elle a été choquée, évidemment. Elle est partie à l'étranger quelques semaines. Pendant un temps, j'ai cru qu'elle n'allait pas revenir. Mais elle est revenue. » Martin était un des rares de la famille avec qui Cecilia s'était toujours bien entendue. Ça a été dur pour elle d'apprendre la vérité sur lui. Cecilia sait aussi maintenant ce que tu as fait pour notre famille. » Michael haussa les épaules. « Merci, Michael, » dit Henrik Wanger. Michael haussa de nouveau les épaules. « En plus, ce serait trop pour moi de l'écrire, cette histoire, » dit-il. « La famille Wanger me donne des nausées. » Ils réfléchirent un peu à cela avant que Michael change de sujet. « Comment ça fait d'être PDG de nouveau après 25 ans ? Ce n'est que temporaire, mais j'aurais voulu être plus jeune. Maintenant, je ne travaille que 3 heures par jour. Toutes les réunions ont lieu ici, dans cette pièce, et Dirk Fraud a repris sa place d'homme de main personnel, si quelqu'un fait des difficultés. » Que les juniors tremblent. Il m'a fallu un bon moment pour comprendre que Fraud n'était pas uniquement un brave conseiller économique, mais aussi quelqu'un qui résout les problèmes pour toi. « Exactement. Mais toutes les décisions sont prises avec Harriet, et c'est elle qui est présente au bureau. « Comment va-t-elle ? » demanda Michael. « Elle a hérité des parts de son frère et de sa mère. Ensemble, nous contrôlons plus de 33% du groupe. Ça suffit ? Je ne sais pas. Birger est récalcitrant et essaie de lui faire des croche-pattes. Alexander a tout à coup réalisé qu'il a une possibilité de devenir important. Et il a fait alliance avec Birger. Mon frère Harald a un cancer et ne va pas vivre longtemps. C'est lui qui a le seul gros poste, avec 7% d'actions qui iront à ses enfants. Cecilia et Anita vont faire alliance avec Harriet. Alors vous contrôlez plus de 40%. Jamais auparavant il n'y a eu un tel cartel de voix au sein de la famille. Ils sont suffisamment nombreux, les petits actionnaires à 1 et 2% qui voteront avec nous. Harriet va me succéder comme PDG en février. Elle ne sera pas heureuse. Non. Mais c'est nécessaire. Il nous faut de nouveaux partenaires et du sang neuf. Nous avons aussi la possibilité de travailler avec son groupe à elle en Australie. Les moyens existent. Où est-elle, Harriet, aujourd'hui? Tu n'as pas de chance. Elle est à Londres. Mais elle a très envie de te voir. Je la verrai à la réunion du CA en janvier, si elle te remplace. Je sais. Dis-lui que je ne parlerai jamais de ce qui s'est passé en 1966 avec quelqu'un, sauf avec Erika Berger. Je le sais, et Harriet le sait aussi. Tu es franc du collier. Mais dis-lui aussi que tout ce qu'elle fait à partir de maintenant peut apparaître dans les pages du journal si elle ne prend pas garde. Le groupe Wenger ne sera pas exempt de surveillance. Je la préviendrai. Michael quitta Henrik Wenger quand celui-ci finit par s'assoupir. Il fourra ses affaires dans deux valises. Il ferma la porte de la maison des invités pour la dernière fois, hésita ensuite un instant, puis il alla frapper à la porte de Cecilia Wenger. Elle n'était pas là. Il sortit son agenda de poche, en arracha une page et griffonna quelques mots. « Pardonne-moi, je te souhaite une bonne vie. » Il laissa le bout de papier avec sa carte de visite dans la boîte aux lettres. La villa de Martin Wenger était vide. Un bougeoir de Noël électrique était allumé à la fenêtre de la cuisine. Il rentra à Stockholm avec le train du soir. Entre Noël et le Nouvel An, Lisbeth Salander se déconnecta du monde environnant. Elle ne répondit pas au téléphone et elle n'alluma pas son ordinateur. Elle consacra 2 jours au lavage de ses vêtements, au ménage et au rangement de l'appartement. Des cartons de pizza et des journaux vieux d'un an furent empaquetés et jetés. En tout, elle porta au tri sélectif 6 gros sacs de plastique noir et 20aine de sacs en papier avec des journaux. Il lui semblait avoir pris la décision de commencer une vie nouvelle. Elle avait l'intention d'acheter un appartement quand elle aurait trouvé quelque chose qui lui convenait, mais jusque-là, son appartement actuel serait plus rutilant qu'elle ne se souvenait de l'avoir jamais vu. Ensuite, elle resta comme paralysée à réfléchir. Jamais auparavant dans sa vie, elle n'avait ressenti une telle envie. Elle voulait que Michael Blomqvist sonne à sa porte et quoi ? Qu'il la soulève dans ses bras ? Qu'il l'entraîne passionnément dans la chambre et lui arrache ses vêtements ? Non. En fait, elle désirait simplement sa compagnie. Elle voulait l'entendre dire qu'il l'aimait pour ce qu'elle était, qu'elle était spéciale dans son monde et dans sa vie. Elle voulait qu'il lui donne un geste d'amour, pas seulement d'amitié et de camaraderie. « Je suis en train de devenir dingue », pensa-t-elle. Elle doutait d'elle-même. Michael Blomqvist vivait dans un monde peuplé de gens avec des métiers respectables, qui avaient des vies rangées et pleins de capacités d'adultes. Les amis de Michael faisaient des choses, paraissaient à la télé et créaient de gros titres. « À quoi je te servirais ?» La plus grande terreur de Lisbeth Salander, tellement grande et noire qu'elle prenait des proportions phobiques, était que les gens rient de ses sentiments. Et tout à coup, elle eut l'impression que tout son amour-propre, si laborieusement construit, s'écroulait. Alors elle se décida. Elle mit plusieurs heures à mobiliser le courage nécessaire, mais elle était obligée de le voir et de lui dire ce qu'elle ressentait. Tout le reste était insupportable. Il lui fallait un prétexte pour venir frapper à sa porte. Elle ne lui avait pas fait de cadeau de Noël, mais elle savait ce qu'elle allait acheter. Dans une brocante, elle avait vu une série de panneaux publicitaires en tôle des années 1950, avec des personnages en relief. L'un des panneaux représentait Elvis Presley, guitare sur la hanche, et une bulle disant « Heartbreak Hotel ». Elle n'avait aucun sens de la décoration, mais elle comprenait que ce panneau irait parfaitement dans la cabane de Sandam. Il coûtait 780 couronnes, et par principe, elle marchanda le prix et le baissa à 700. On lui fit un paquet, elle le prit sous le bras et s'en alla à pied vers l'appartement de Michael dans Bellmansgatan. Dans Hornsgatan, elle jeta un regard vers le bar-café et vit soudain Michael en sortir avec Erika Berger sur les talons. Il dit quelque chose et Erika rit et passa le bras autour de sa taille et lui planta une bise sur la joue. Ils disparurent le long de Brennkirkagatan en direction de Bellmansgatan. Leur langage corporel ne laissait aucune place pour de fausses interprétations. Ce qu'ils avaient en tête était évident. La douleur fut si immédiate et détestable que Lisbeth s'arrêta net, incapable de bouger. Une partie d'elle voulut courir les rattraper. Elle voulut prendre le panneau en tôle et utiliser le bord tranchant pour couper la tête à Erika Berger. Elle n'en fit rien, tandis que les pensées fusaient dans sa tête. Analyse des conséquences. Elle finit par se calmer. Salander, quelle conne tu fais, c'est nul, se dit-elle à voix haute. Elle tourna les talons et rentra à son appartement rutilant. Elle passait Zinkensdam quand la neige commença à tomber. Elle jeta Elvis dans un conteneur à ordures.